Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manila Kizan, direct de Washington, pour vous présenter cette édition de 18h30 en temps universel du lundi 16 septembre 2019. Au sommaire, la procureure de la CPI fait appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé-Goudet.
Les juges de première instance ont considéré qu'il était parfaitement innocent. Il n'est pas question qu'il retourne en prison.
En Tunisie, deux candidats se présentant comme anti-système sont en tête, mais seulement après dépouillement du quart des bulletins. Au Zimbabwe, manifestation des médecins pour la libération d'un collègue enlevé et l'ancien président tchadien. Lol Mahmoud Choua, décédé hier, a été enterré aujourd'hui.
Lol est mort. Donc c'est une perte et irremplaçable. Le Tchad perd en lui un véritable chef d'État. Donc je suis vraiment ému.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. La procureure de la CPI, la Cour pénale internationale, a fait appel contre l'acquittement de crimes contre l'humanité prononcé en janvier à l'encontre de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé-Goudet. Les précisions de Bagassikoura.
L'appel démontrera que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont abouti à l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé-Goudet pour tous les chefs d'accusation, a déclaré dans un communiqué le bureau de la procureure Fatou Ben Souda. Laurent Gbagbo a été reconnu non coupable de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire et libéré en février sous condition. Les juges ont acquitté les deux hommes sans formuler correctement et sans appliquer de manière cohérente une norme de preuve clairement définie, a déclaré Ben Souda. Pascal Afinguessan, président d'une tendance du Front populaire ivoirien, dénonce l'acharnement à l'encontre de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Dans l'attente de la suite du procès, Laurent Gbagbo réside à Bruxelles et Charles Blé-Goudet aux Pays-Bas.
Nous y reviendrons dans la partie magazine avec Maître Emmanuel Altit, l'avocat de Laurent Gbagbo. Des combattants de Boko Haram ont attaqué un poste militaire aux abords du campus universitaire de Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria, sans toutefois faire de victimes. Les djihadistes ont réussi à franchir les tranchées creusées par l'armée pour protéger l'université, frappée à de nombreuses reprises par des attaques suicides ces dernières années. Au Burkina Faso, la police a repoussé avec des tirs de gaz lacrymogène aujourd'hui à Ouagadougou une marche anti-pouvoir. Environ 2000 personnes réunies à l'appel de l'unité d'action syndicale et des organisations de la société civile ont été refoulées vers la Bourse du Travail. Les autorités assurent que les organisateurs n'avaient pas déposé de demande d'autorisation de la marche dans les délais. Nous y reviendrons dans le reportage de Lamine Traoré, en partie magazine également. Le procès de sept militaires camerounais accusés d'être impliqués dans l'exécution de deux femmes et leurs enfants dans le nord du Cameroun a été renvoyé au 21 octobre par le tribunal militaire de Yaoundé à cause d'une grève des avocats en juillet 2018. Une vidéo montrant des hommes en tenue militaire exécutant sommairement deux femmes et leurs deux enfants avait été publiée sur les réseaux sociaux. Le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé ce soir en Belgique pour sa première visite officielle dans l'ex-puissance coloniale. Monsieur Tshisekedi dit attendre de cette visite une reprise de la coopération militaire belgo-congolaise et la promesse d'aide pour renforcer les systèmes de santé et d'éducation. En Tunisie, les avocats de l'homme d'affaires Nabil Karoui vont déposer dans les 24 heures une nouvelle demande de libération du candidat. Il est arrivé deuxième selon des résultats très partiels du premier tour de la présidentielle. L'universitaire sans affiliation politique, Kaïs Saïd, confirme son avance toujours selon des résultats très partiels. Le point avec Abdulrahman Dia.
Kaïs Saïd, un constitutionnaliste de 61 ans, est en tête avec 19% des voix selon des résultats portant sur plus d'un quart des suffrages. Selon l'instance en charge des élections, il devance l'homme d'affaires en prison Nabil Karoui qui obtient 14,9% des voix au coude à coude avec le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, qui engrange 13,1% des suffrages. C'est la stratégie anti-système qui l'a emporté, a déclaré un membre de l'ISIE, Adil Brinsi, tout en mettant en garde, rien n'est encore joué. 7 millions d'électeurs étaient appelés hier à départager 26 candidats pour le premier tour de ce scrutin qui s'est déroulé sur fond de graves crises économiques et sociales. La participation a été d'environ 45% selon des chiffres encore provisoires de l'instance électorale, un taux faible comparé aux 64% enregistrés lors du premier tour de la présidentielle de 2014. Les résultats encore très partiels ne sont pas favorables aux candidats de la famille libérale centriste issus du parti de l'ancien président Beji Caïd Essebsi, décédé en juillet.
Au Zimbabwe, près de 200 docteurs et infirmières ont manifesté dans la capitale Harare pour exiger la remise en liberté immédiate d'un de leurs responsables syndicaux. Ils accusent les services de sécurité de l'avoir enlevé. Claire Morin-Gibourg.
Des dizaines de médecins, d'infirmières et autres personnels médicaux ont défilé en blouse blanche dans les rues de Harare au cri de « pas de Peter, pas de travail ». Le docteur Peter Magombeyi, président du syndicat des médecins hospitaliers, est porté disparu depuis samedi soir. Son syndicat accuse la sécurité d'État de l'avoir kidnappé pour son rôle dans une grève qui perturbe le secteur de la santé. Nelson Chamisa, chef de l'opposition, a dénoncé sur Twitter des pratiques dignes, selon lui, d'une république bananière. Les citoyens ne peuvent pas vivre dans la peur d'être enlevés simplement parce qu'ils défendent leurs droits, a-t-il ajouté. Début septembre, les médecins du secteur hospitalier ont entamé une grève pour exiger que leur salaire, payé en devise locale, soit calculé en fonction de la valeur du dollar américain pour éviter la chute de leur pouvoir d'achat. Le Zimbabwe est enlisé depuis près de 20 ans dans une grave crise économique.
En Afrique du Sud, l'armée va rester déployée 6 mois de plus dans les quartiers sensibles du Cap, dans le sud-ouest, deuxième ville du pays. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est à Khartoum pour une visite d'un jour, la première du genre dans un diplomate français en plus d'une décennie. Monsieur Le Drian va s'entretenir avec son homologue Asma Mohamed Abdallah, la première femme à occuper son poste au Soudan. Il va également rencontrer le premier ministre Abdallah Hamdok, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil souverain, pour réitérer le soutien de la France à Khartoum face aux défis à venir.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Téhéran, la Maison-Blanche a déclaré hier que M. Trump n'exclut pas l'hypothèse d'une rencontre avec M. Rouhani. Des précisions de Irénée Herman Ungbo.
Cette déclaration intervient après une attaque de drones contre 2 installations pétrolières en Arabie Saoudite. Elles ont été revendiquées par les rebelles Houthis yéménites. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déjà estimé qu'il n'y avait aucune preuve que cette attaque sans précédent soit venue du Yémen. Washington accuse l'Iran d'être à l'origine, mais Téhéran a jugé ces accusations insensées et incompréhensibles par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Moussavi. Le président français Emmanuel Macron a jugé le mois dernier lors du G7 une rencontre entre M. Trump et Rouhani. Le président iranien avait demandé la levée au préalable de toutes les sanctions contre son pays. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, se rendra à New York pour retrouver le président iranien qui vient à l'Assemblée générale de l'ONU. Mais selon Téhéran, pour le moment, aucune rencontre avec le président Trump n'est inscrite à l'ordre du jour.
Les dizaines de milliers de salariés américains de General Motors sont en grève en raison de l'impasse sur les négociations salariales avec le groupe automobile. La production de voitures du géant de Detroit était complètement interrompue aux États-Unis. Le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a exhorté Boris Johnson à agir plutôt qu'à parler pour trouver une solution sur le Brexit à l'issue d'une rencontre aujourd'hui avec son homologue britannique. M. Bettel a confirmé qu'il n'y avait pas de proposition concrète sur la table de la part de Londres, comme l'avait déploré plus tôt la Commission européenne. Il a aussi indiqué qu'un éventuel report du Brexit prévu le 31 octobre, option à laquelle est opposé M. Johnson, n'était possible que s'il y avait une raison pour le justifier. M. Johnson a quant à lui estimé qu'il y avait une bonne chance d'accord, mais que l'Union européenne devait bouger. La Russie a lancé aujourd'hui de grandes manœuvres militaires annuelles, mobilisant jusqu'à samedi 128 000 hommes dans le centre du pays, avec pour scénario de repousser une attaque islamiste. En plus des soldats russes, des troupes venues de Chine, d'Inde, du Pakistan et de plusieurs pays d'Asie centrale doivent participer à ces manœuvres. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
Le Bénin a confié la gestion de sa société d'énergie électrique, la SBEE, au Canadien Manitoba Hydro International, qui a été désigné comme l'adjudicataire provisoire du contrat de gestion de la compagnie. Cette réforme, qui recherche l'efficacité de la gestion, n'induit pas une privatisation de la SBEE. La société ainsi que son patrimoine restent la propriété de l'État béninois. La Tanzanie veut construire d'ici 2021 un pipeline de 30 km afin de fournir une énergie moins chère aux usines et à un plus grand nombre de villes. L'infrastructure qui étendra le réseau de gaz naturel du pays permettra notamment aux usines de remplacer des sources d'énergie plus coûteuses telles que le charbon et le diesel importés. La consommation de gaz naturel de la Tanzanie a augmenté de 84% pour atteindre 59,2 milliards de pieds cubes en 2018 par rapport à 3 ans plus tôt. Le pays dispose de réserves de gaz récupérables estimées à plus de 57 000 milliards de pieds cubes. Pour terminer, l'Égypte s'attend à une croissance annuelle de son économie de 8% d'ici 2022 à cause des actions gouvernementales qui amélioreront le climat des investissements. Les autorités veulent par exemple simplifier et abaisser le coût de la formation des entreprises et développer de nouvelles zones d'investissement. Actuellement, en dehors du secteur pétrolier, l'économie égyptienne a du mal à attirer les investisseurs étrangers depuis le soulèvement de 2011.
C'est votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence par le football. L'Espérance de Tunis connaît son parcours au Mondial des clubs 2019.
Oui Eric, tout juste confirmé vainqueur de la Ligue des Champions par la commission d'appel de la CAF, le représentant africain entamera sa compétition en quart de finale avec une opposition contre le champion d'Asie. En cas de qualification, les SAIO affronteront le champion du CONMEBOL, vainqueur de la Copa Libertadores. Sur l'autre voie, le CF Monterrey affrontera en quart de finale le vainqueur du play-off entre l'hôte Al Sadd du Qatar et Iguéné Sport de l'Océanie. Le vainqueur de ce match sera face en demi-finale à Liverpool, champion d'Europe en titre et favori du tournoi. La Coupe du Monde des clubs aura lieu du 11 au 21 décembre prochain au Qatar.
Sur le continent, Yacouba, l'Espérance de Tunis a été accrochée lors du premier tour de la Ligue des Champions.
Oui, le tenant du titre a été tenu en échec 1-1 à N'Djamena par les Tchadiens d'Elect Sports. De son côté, l'Étoile du Sahel a concédé la défaite 2-0 au Ghana devant la Santé Kotoko. Les Congolais du tout-puissant Mazembe et l'AS Vita Club ont ramené le nul blanc de leur déplacement respectivement à Madagascar face à Fossa Junior et au Togo contre l'ASK. Le Wydad de Casablanca, finaliste malheureux la saison dernière, s'est imposé 2-0 en Mauritanie face au FC Nouadhibou. L'autre club marocain, le Raja, n'a pas non plus tremblé à l'extérieur face au Libyen d'Al-Nasr, 3-1. Un bon résultat selon Patrice Carteron, l'entraîneur du Raja.
C'était un moment difficile, en tournant dans la saison, il fallait répondre présent. On était dos au mur et on a vraiment fait un match plein. J'ai trouvé qu'on avait un très bon état d'esprit, une qualité de jeu technique bonne également, malgré le terrain petit à petit rendu difficile.
Patrice Carteron, entraîneur du Raja de Casablanca. Les Nigériens d'Enimba ont été accrochés à domicile par les Soudanais d'Al-Hilal, score 0-0. À Thiès, les Sénégalais de Génération Foot ont battu les Égyptiens du Zamalek 2-1. Par contre, l'autre géant du Caire, Al-Ahly, est allé s'imposer 2-0 devant Kano Sport en Guinée équatoriale. Même score en faveur des Algériens de la JS Kabylie aux prises avec les Guinéens d'Oroya. Carton plein des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur le terrain des Seychellois de Côte d'Or, 5-0.
La Coupe CAF aussi s'est jouée ce week-end.
Match nul et vierge à Cotonou entre les Béninois d'Esaïe et les Burkinabés de Salitas. 0-0 également entre les Guinéens de Saint-Toba et les Ivoiriens de FC San Pedro. En revanche, succès 3-1 des Algériens de Paradou devant les Tunisiens de Sfax. Les Maliens de Djoliba sont allés s'imposer sur la pelouse. Bulls de Maranatha, 2 buts à 1. Victoire des Gabonais de l'AS Pélican sur les Nigériens de Rangers, 2-0. Les Ghanéens d'Ashanti Gold ont eu raison des Marocains de Berkane, 3 buts à 2. En ouverture, les Congolais du DC Motoma Pembe sont allés battre les Soudanais de Khartoum, 2 buts à 1. Les matchs retour de ces deux compétitions auront lieu dans 2 semaines.
Merci Yakuba pour toutes ces précisions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakiza. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, Pascal Amédéjean, président d'une tendance du Front populaire ivoirien, dénonce un dilatoire juridique et de l'acharnement politique pour maintenir le plus longtemps possible loin de leur pays, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a fait appel contre leur acquittement prononcé en janvier. Pour une réaction, Idriss Fall a joint Maître Emmanuel Altit, avocat de Laurent Gbagbo.
Alors oui, la procureure a déposé aujourd'hui même une notice permet à la Cour et aux parties de savoir qu'elle va déposer ce qu'on appelle un mémoire d'appel dans un mois. Donc elle poursuit dans la voie de l'appel. L'appel est fondé sur des considérations techniques. Le mémoire d'appel de la procureure sera déposé dans un mois. La défense y répondra assez rapidement et les juges d'appel se prononceront ensuite. Ce sont des considérations techniques que fait valoir la procureure. C'est sur ces considérations techniques que nous répondrons et les juges d'appel décideront dans un délai, relativement court. Voilà, donc la procédure continue, mais elle continue sous un angle, disons, plus technique.
Et qu'est-ce que cela va signifier pour Laurent Gbagbo ?
Ça signifie d'abord que la procédure n'est pas complètement terminée, mais que le président Gbagbo a toujours dit qu'il voulait que la justice soit rendue, qu'une justice complète soit rendue pour que la vérité soit dite. Et par conséquent, il attend la suite de la procédure de façon sereine et de façon confiante.
Est-ce que ça signifie qu'il doit retourner en prison ou bien ?
Pas du tout. Son innocence a été reconnue. Les charges portées contre lui ont été réfutées. Les juges de première instance ont considéré qu'il était parfaitement innocent. Il n'est pas question qu'il retourne en prison.
Mais si la procureure fait appel, elle veut quoi alors ?
On attend, pour être tout à fait précis, aujourd'hui nous avons reçu la notification de la volonté de la procureure de poursuivre la procédure d'appel. La procureure déposera un mémoire d'appel dans un mois. Tant que nous n'avons pas ce mémoire d'appel, nous ne connaissons pas exactement la substance de ce que dira la procureure, nous ne connaissons pas exactement sa position. Il est donc trop tôt pour se prononcer d'une manière ou d'une autre. En ce qui concerne le président Gbagbo, la situation aujourd'hui est la suivante. Les charges portées contre lui ont été rejetées par les juges de première instance. Son innocence a été reconnue. C'est un homme innocent, un homme libre et qui est aujourd'hui en dehors de prison et qui ne retournera pas en prison.
Mais qui ne va pas retourner en Côte d'Ivoire de sitôt non plus.
C'est tout à fait autre chose. Si vous voulez, les modalités de sa liberté sont une chose, la procédure d'appel est autre chose, les deux ne sont qu'indirectement corrélés et nous verrons, il y aura discussion sur les modalités de son séjour. Nous verrons en temps utile.
Maître Emmanuel Altit, avocat de Laurent Gbagbo.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, des organisations de la société civile et des syndicats ont manifesté ce lundi pour dénoncer la mauvaise gestion du pays, surtout l'insécurité grandissante. Mais la marche qui était prévue n'a pas eu lieu. Elle a été repoussée par les forces de l'ordre. Les autorités estiment qu'elle était illégale. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Course-poursuite ce matin dans les rues de Ouagadougou entre manifestants et policiers. Eux qui étaient sortis pour dénoncer la malgouvernance, l'impunité et le terrorisme.
Évidemment, nous sommes sortis pour manifester notre mécontentement vis-à-vis de ce régime qui est en place.
Abdoul Fattah Bangré était de la marche.
Malheureusement, nous avons été gazés par les forces de défense et de sécurité. Il faut le dire, c'est très très malheureux. C'est très très malheureux si nous connaissons comment ce régime est venu en place. Et suite à des marches pour qui les a amenés aujourd'hui au pouvoir. Nous n'avons pas eu besoin de notre personne de Blaise ni de Guengueré pour sortir. Nous sommes sortis, nous avons mis la pression et le but était atteint. Et aujourd'hui, on nous gaze. Mais ce que nous on a dit, ce n'est que le début de la marche. Ce n'est que le début. Nous sommes sortis pacifiquement pour marcher et nous ont gazé. Dans tous les cas, nous allons ressortir. Et de façon plus courageuse, avec les moyens de bord, nous allons donner des forces pour atteindre notre objectif.
Une marche pacifique et vers l'état-major que la police a commencé à nous lancer du gaz lacrymogène. Ils nous ont lancé le gaz jusqu'à la bourse du travail.
Ida Tapsoba, une marcheuse.
C'est vraiment décevant. Parce que ce pour qui nous luttons aujourd'hui, c'est ces mêmes-là qui sont en train de nous chasser. Et le pays est confronté au terrorisme et à la mauvaise gestion. Nous sommes en train de dénoncer cela. Ça ne va pas dans tous les secteurs, ça ne va pas. C'est compliqué. Regardez comment nos SDS sont en train de tomber. Si nous continuons dans cette lancée, tout le monde va finir au Burkina.
Les responsables de la marche estiment que le pays va mal et l'État les empêche de manifester. Bassolement Bazier, secrétaire général de la CGTB, Confédération générale du travail du Burkina.
C'est tout pour dénoncer la malgouvernance. C'est pour dénoncer l'insécurité dans le terrorisme. C'est pour dénoncer le pillage des ressources nationales. C'est pour dénoncer le fait que les travailleurs et les populations sont dans des conditions intenables. C'est pour dénoncer l'expropriation des terres des paysans. C'est pour dénoncer la violation des libertés. Mais quand on empêche une voix de dénoncer tout cela, ça veut dire qu'on est la preuve patente de ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait bonne gouvernance, de ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la sécurité, de ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'on voit clair dans la gestion du patrimoine national, de ceux qui ont intérêt à ce que les paysans soient clochardisés et que les terres soient expropriées. Sinon, ils n'auraient pas agi de cette façon.
La mairie de Ouagadougou ainsi que le gouvernement burkinabé, eux avaient annoncé la semaine dernière que la marche des syndicats et des organisations de la société civile était illégale. Ces organisations ne comptent pas baisser les bras. Dans les jours à venir, des mots d'ordre suivront, ont-elles rassuré. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Hey there, hello. VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Et donc, rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
En RDC, l'ancien ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, devait être transféré au parquet général de la Cour de cassation aujourd'hui pour un détournement de plus de 4 millions de dollars destinés à la lutte contre Ebola. Ses avocats affirment que leur client n'a jamais tenté de fuir le pays, comme la police l'a motivé. Eddie Isango a joint l'un de ses avocats à Kinshasa, Maître Guy Kabea.
Hier, on n'a pas eu accès à notre client. Je me suis présenté, comme j'ai dit, à 14h23 à peu près, à la police judiciaire. Le gardien qui était là, avec la confirmation de son chef, nous a empêché de rencontrer le docteur Ilunga. Et nous avons fait cette alerte. Et ce matin, finalement, on l'a rencontré. Contrairement à ce que la police disait qu'il avait été dit que c'était l'expulsion, qu'il ne voulait pas voir l'avocat, il voulait seulement voir sa femme. Qui, en passant, il n'est même pas à Kinshasa, c'est à l'extérieur du pays. Voilà.
Justement, les communiqués de la police disent que l'avocat qui a été empêché était venu en état d'ébriété.
Vous voyez, un avocat venir défendre son client, et moi qui suis en état d'ébriété. Donc, je sais que c'est même pas bien de dire ça. Et deux, nous sommes tous sous régime, là. Moi, je suis hyperpendu, les autres sont hyperpendus. On nous empêche de prendre la bière. Et on nous dit en état d'ébriété pour défendre un client à 14h. C'est indécent de dire ça. Ça, c'est un. Et deux, lorsqu'ils disent que le ministre a refusé, parce qu'ils disent que les avocats qui reviennent à l'intérieur la veille samedi, mais moi je ne parle pas de samedi, je parle de dimanche. Là il y a un problème. Et le ministre, parce qu'un avocat qui revient dans l'intérieur de l'intérieur, on refuse que les avocats viennent, c'est même pas possible, c'est même pas vraisemblable.
La police a aussi, dans un communiqué samedi, dit que le ministre Oli Ilunga, votre client, avait tenté de s'extraire des poursuites judiciaires en allant au Congo-Brazzaville.
Déjà, la police elle-même a sorti deux communiqués. Donc dans le premier, il fouillait, dans le deuxième, il planifiait la fuite. Première contradiction. Deuxième contradiction, lorsqu'on arrête Onilunga, on l'arrête dans sa résidence de la Gombe, qu'il loue depuis qu'il est ministre, depuis 2 ans. Donc quand la police dit qu'il aurait été caché dans un appartement, c'est archi faux.
Il est plutôt reproché à votre ministre la mégestion de plus de 4 millions de dollars américains destinés à la lutte contre Ebola.
Qu'est-ce qu'on dit en matière d'accusation pénale? Donc ils disent qu'il aurait détourné, il est tombé de preuves, le détournement. Ce n'est pas le dire qui est important, c'est prouver qu'il a détourné qui est important. Mais nous voulons un procès serein et juste. Il y a même le montant qu'on veut lui imputer, avoir géré, qui est sorti après. Donc quand on voit les dates de sortie, et même ils disent bon, telle date. Donc c'est là qu'on dit que ce montant, donc 1 900 000, on l'a publié. Ces montants sont sortis après la démission du ministre. Et lui, en un an, à peu près, il a reçu par le biais du canal, dans le canal plutôt du comptable, 2 400 000 qu'on demande de justifier. Et juste après lui, un mois, dans le mois, il y a 1 900 000 qui sont sortis. Bon, on veut lui demander de justifier alors qu'on n'avait plus la gestion de Ebola.
Maître Guy Kabaya, avocat de l'ancien ministre de la Santé de la RDC, docteur Oli Ilunga.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, l'ancien président de la République et député à l'Assemblée nationale, Lol Mahamat Choua, qui était aussi président du groupe parlementaire à la troisième législature en place, est décédé ce dimanche à l'âge de 80 ans de suite de maladie. Ses obsèques ont eu lieu ce matin à la place de la Nation de N'Djamena en présence du président Idriss Déby Itno. De N'Djamena, le reportage est signé André Kodmadjinga.
Véritable monument politique, mémoire vivante de la vie politique de notre pays, Lol Mahamat Choua, nous quitte aujourd'hui pour sa dernière demeure. Va et repose en paix dans la félicité éternelle.
Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale, prononçant l'horizon funèbre de l'ancien président de la République du Tchad, feu Lol Mahamat Choua, il rend hommage à ce grand commis de l'État.
Tu as jeté le tablier au moment même où la grande aventure politique que vous avez consciencieusement construite avec Idriss Déby Itno se poursuit encore. Il reste encore beaucoup à faire. Tu pars, mais ta mémoire restera à jamais éternelle dans nos esprits et dans nos cœurs.
Décédé à l'âge de 80 ans, Lol Mahamat Choua, originaire de la province du Kanem à l'ouest du pays, a consacré la moitié de sa vie à la politique du Tchad. Après ses études primaires à Mao, sa ville natale, et ses études secondaires en N'Djamena, il s'est envolé pour Paris en France où il a obtenu un diplôme d'études supérieures de recherche à l'Institut d'études de relations internationales en 1973. Au moment le plus critique de la guerre civile de 1979 au Tchad, Lol Mahamat Choua a été désigné à l'unanimité par les différentes tendances politico-militaires, président de la République du 29 avril au 29 août 1979. Le député Diogdelan Angabonan de la majorité présidentielle se souvient encore de ce moment.
Connaissant son calme, sa bonne manière d'agir, tous les Tchadiens étaient convenus pour qu'il prenne la présidence. Même s'il n'a pas mis beaucoup de temps, il a assumé ça avec dignité. Je garde de lui un souvenir inoubliable. C'est un homme d'État au plein sens du mot.
L'opposant historique du régime au pouvoir, Narledi Yurongar, se rappelle de leur incarcération avec feu Lol Mahamat Choua au lendemain de l'attaque de N'Djamena du 2 et 3 février 2008 par les rebelles qui ont failli renverser le président Déby du pouvoir.
Lol est un ami. Nous avons passé des moments très difficiles. Ce que Lol a subi une nuit le 4 ou 5 février dans sa geôle, c'est pas humain. Donc depuis cette date, Lol est mort. Hier, là, il a rendu seulement l'âme. Donc, c'est une perte et irremplaçable. Le Tchad perd en lui un véritable chef d'État. Donc, je suis vraiment ému.
Outre la présidence de la République, feu Lol Mahamat Choua fut premier président du Conseil supérieur de transition, un organe qui a joué le rôle de l'Assemblée nationale après la Conférence nationale souveraine de 1993, puis candidat malheureux à l'élection présidentielle de 1996 sous la bannière de son parti RDP. André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Lunanira Gahima, à la console, Michael Dobinski, à la présentation, Eric Maniakis. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site VOAfrique pour l'actualité 24h sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayigouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.